France Culture.
Talmudique. Par l'art seulement, écrit Proust à la fin de La recherche du temps perdu, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier. Et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini et qui, bien des siècles après qu'aient éteint le foyer dont ils émanaient, nous envoient leur rayon spécial. Ce texte de Proust est une belle introduction à l'hommage consacré à l'œuvre de la cinéaste Nourrit Aviv qui se tiendra au Forum des images du samedi 25 janvier au jeudi 30 janvier. 5 journées de projection et de rencontres en présence de la cinéaste et de ses invités avec une masterclass avec Catherine Cocchio au centre de ce grand événement. Née à Tel Aviv en 1945 de parents originaires de Berlin et de Prague, vivant en France depuis de nombreuses années, Nourrit Aviv filme la parole, expression reprise dans le titre du livre « Filmer la parole » qui sort en avant-première lors de cet hommage. Filmer la parole, oui, c'est bien cela qui fait œuvre chez Nourrit Aviv, qui inlassablement répète, en créant ainsi un style remarquable, un dispositif d'image et de parole, de silence et de souffle du vent, qui murmure à l'oreille des arbres, de portes, de couloirs et de fenêtres, de corps et de visages aussi, permettant d'entendre des hommes et des femmes s'expliquer avec ce qui est propre aux humains, la parole et le langage, la vie, le rêve et la création. Une œuvre qui s'approfondit de film en film et qui ne cesse de rassembler non seulement des admirateurs de plus en plus nombreux, mais des commentaires, des analyses et des critiques dans tous les domaines des sciences humaines et artistiques, lui donnant une place incontournable dans l'histoire du cinéma, créant ce que l'on pourrait appeler un cinéma midrash ou un cinéma Talmud. Nourrit Aviv, bonjour.
Bonjour.
Nourrit Aviv, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique, non pour parler d'un de vos films, mais de l'ensemble de votre œuvre. Essayons ensemble de comprendre la structure, l'architecture de votre travail. Il y a chez vous une forme de répétition, une obsession dans le bon sens du terme. Vous tournez des films et autour des films, et vous reprenez, revenez sans cesse sur la même question. Que cherchez-vous à découvrir dans cette démarche, Nourrit Aviv ?
En fait, je ne sais pas. Peut-être, je sais de moins en moins, et ce qui me fait de chercher de plus en plus. C'est-à-dire que je me dis, si je fais encore une variation, une autre variation, un peu comme un peintre, je ne sais pas, Morandi, qui fait toujours la même chose. Mais on ne cherche pas la chose elle-même, c'est qu'on cherche quelque chose derrière, qu'on ne sait pas, justement. On dirait mystère, n'est-ce pas ? Un peu, je ne sais pas, Benjamin, quand il parle de la traduction d'une langue à une autre langue, c'est pas ces deux langues qu'il cherche. Il cherche quelque chose qui concerne toutes les langues. Et je crois que chez Édouard Glissant, quand il parle de tout monde, c'est quelque chose qui se trouve dans l'intervalle. C'est ni l'un ni l'autre. C'est la chose qu'on ne sait pas, mais on sait qu'on la cherche. Trouver, c'est autre chose.
C'est l'entre-deux.
C'est entre toutes.
Oui.
Oui, je sais qu'il y a l'expression, mais c'est pas entre deux. C'est en cherchant entre deux, on va vers quelque chose, on espère, qui est entre toutes. Hein.
Entre toutes les langues. Parce que votre sujet, c'est la langue, le langage humain.
C'est ça. C'est les langues et ce qui se passe entre elles. Et plus je fais de films, plus il se passe des choses entre elles. Et chaque film qui s'ajoute change la constellation. C'est-à-dire qu'il y a une constellation et dès qu'un film s'ajoute, tout bouge. Ça devient autre chose. Et aussi, chaque élément est éclairé différemment. C'est-à-dire qu'il y a comme un éclat qui n'a pas eu lieu avant qu'un nouveau film arrive. Donc, moi, je suis toujours curieuse. Qu'est-ce que le nouveau film va apporter? Pas seulement celui-là, mais comment il va parler avec les autres. Et c'est vrai que je trouve de plus en plus d'échos, de résonances, de choses dites. Je découvre maintenant que j'étais obligée un tout petit peu, à cause de la rétrospective et les livres, de temps en temps regarder le film ou des bouts de film. Et je trouve de résonance, c'est-à-dire que je dis, bon, mais j'ai tout dit au premier film, parce que les derniers films des lettres errantes, c'est sur la lettre R, mais Agi Michaud, dans D'une langue à l'autre, parle déjà comment elle passe son temps devant le miroir pour essayer de se débarrasser de ses roulés. Et Orlinoy, dans les derniers, dit des choses pareilles. Et tout d'un coup, je me rappelle qu'aussi dans les films signés, Debbie Ménaché raconte qu'il est sourde et comment on essaye de la faire parler. Donc on essaye qu'elle prononce les R, on lui met un papier de cigarette qui doit trembler quand elle va dire les ré, les re. Donc le rouar, c'est avec le rouar, le vent. En hébreu, c'est le rouar, donc elle doit faire bouger. Donc le rouar, il est là dans Poétique du cerveau, où on parle de rouar, comment c'est lié au réar, donc le rouar, le vent, rouar, rouar, et le réar qui est l'odeur.
Ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est que c'est pas simplement D'une langue à l'autre, qui est le titre d'un de vos films, mais c'est D'un film à l'autre, qui s'articule. Parmi ces films, il y en a un qui s'appelle Vatersland, c'est-à-dire le pays des ancêtres, le pays des pères. Et j'ai l'impression que ce film Vatersland est une sorte de matrice. Je reprendrai les trois étapes kabbalistes que nous avons évoquées la semaine dernière. Tzimtzum, Shevira, Tikkun, retrait ou évidement, brisure et réparation. Tout commence chez vous avec ce traumatisme d'une Allemagne et d'une Europe qui se vide de ses juifs, c'est le Tzimtzum. Il s'ensuit une brisure de la culture, aussi bien pour les juifs que les Allemands, et une brisure et un exil de la langue. Des langues, c'est cette brisure, la Shevira, puis vient le Tikkun, la réparation qui passe par la traduction et le voyage constant et le retour dans les pays de la diaspora et la résurrection des langues perdues. Nourit Aviv, parlez-nous de Vatersland et pourquoi peut-être mon intuition que c'est la matrice de votre travail n'est pas si fausse.
La matrice ou la patrice? Oui, le vide, le vide. En effet, c'est autour du vide. C'est Hannah Arendt qui en parle dans le film lui-même. Comment? C'est ça qui était le plus dur. Elle dit que les nazis étaient les nazis, ça on savait. Mais qu'il y avait autour de nous un vide par rapport aux amis, c'est ça sa grande souffrance. Et moi, là, je suis revenue vers les amis allemands pour qu'ils me parlent de ce vide-là. Les juifs qui ne sont plus là, mais c'est pas que les juifs, c'est la partie juive de la culture allemande. Et c'est les amis allemands qui m'ont fait découvrir Benjamin, Freud, Einstein. C'est-à-dire que me dire que c'était vraiment là, tellement fort, lié l'un de l'autre avec une croyance, avec que ça va être quelque chose qu'on pouvait en faire ensemble, et c'est arrivé ce qui est arrivé. Et en effet, Vatersland, pour moi, ça veut dire le pays du père. On ne sait pas est-ce que c'est le père de mes amis ou mon père.
Qui est né à Berlin.
Qui est de Berlin, justement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui s'est passé, que j'étais déjà en train de préparer les films D'une langue à l'autre pour Arte, Allemagne, justement, l'alphabet des Brûlis-Boisbrais. Ils m'ont dit, on a une émission sur le deuil, est-ce que tu peux faire un film de 30 minutes? J'ai dit oui, je regardais ce que Freud a dit sur le deuil, et il a dit quelque chose comme, le deuil c'est la perte d'une personne aimée, c'est la réaction de la perte d'une personne aimée, ou une abstraction qui vient à sa place, comme Vaterland, ce qui veut dire patrie, pas Vatersland, mais Vaterland, et liberté, idéal, etc. Bon, le etc., pour moi, je voulais presque l'appeler etc., qui était le plus important. Je me suis dit, Freud, qui commence à parler de la patrie, je me suis dit, donc, Vatersland. Je suis passé de Vaterland, qui est la patrie, à Vatersland, le pays du père. Mon père, leur père, c'est vide qui se faisait. C'était ça. Moi, je pensais pas, parce que c'était une soirée tellement sur le deuil, je pouvais pas parler avec les Allemands du deuil. Donc, je suis passée, grâce à Freud, du deuil à la perte. Mais comme vous dites maintenant, en fait, je comprends maintenant qu'il s'agit de mon deuil à moi, hein, avec, bon, tout ce que j'ai perdu et tout ce que ça a été perdu par ce que j'ai découvert, qui était la diaspora juive, hein, que j'ai redécouvert après en France, et que bon, je fais mon cheminement un peu dans l'autre sens, les retours à cette diaspora-là. Hein.
Oui, c'est pour ça que c'est une forme de tikkun, parce voilà. Qu'en ayant perdu la patrie et le pays du père, c'est aussi une judéité que vous avez perdue, c'est aussi une langue que vous avez perdue, et c'est très étonnant parce que le film Vatersland, le pays du père, est un film que vous tournez en parlant vous entièrement en allemand, qui est la langue de vos parents. Et donc c'est à la fois un film sur la patrie, mais aussi sur la langue, sur la langue des pères. C'est très intéressant. Alors Proust dit dans le même texte que j'ai cité plus haut, que le travail de l'artiste est de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots, quelque chose de différent. J'ai l'impression que chacun de vos films en appelle à un autre, et vous l'avez évoqué, et que son sens se reconfigure en fonction de chaque nouveau film, c'est ce que vous avez évoqué, en fonction de nouvelles associations. L'association, par jeu de mots, par jeu d'images, par jeu de couleurs, c'est quelque chose qui est particulièrement important chez vous, et tout fonctionne, comme dans le Midrash ou le Talmud, un mot en appelle un autre, identique, mais avec un sens différent, et crée de nouvelles images. Je pensais par exemple au mot « Safa », qui signifie à la fois la langue, le bord de la mer et le seuil de la maison, ou au mot « rouar » que vous avez déjà évoqué, qui signifie le souffle, le vent et l'esprit. J'ai l'impression que ce n'est pas seulement d'une langue à l'autre, mais déjà d'un mot à l'autre que vos films travaillent, Nourrit Aviv.
C'est vrai qu'ils travaillent d'une manière différente, c'est-à-dire, bon, par exemple, on a dit « Safa », c'est les bords de la mer, c'est les bords de la fenêtre, les bords, c'est les lèvres, donc c'est les bords de la bouche, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. Je commence le film d'une langue à l'autre, je sais pas si c'était, j'ai pensé avant ou après, mais je commence avec Svatyam, le bord de la mer, et puis on voit quelqu'un au seuil de la porte, quelqu'un. Mon cher ami Meir Wieseltier, un grand poète qui n'est plus parmi nous, et il est au seuil, qui se dit Saf. Donc, il y a déjà un jeu de mots entre Safa et Saf, et aussi, il est sur la bordure de sa maison. Et après, ça va continuer, mais c'était sous ces choses-là, les mots et les jeux de mots midrashiques que j'ai appris par vous, n'est-ce pas, depuis des dizaines d'années. Et ils sont là, ils jouent, ils réjouent. Yam, bon, il y a Yam. Les Yam apparaissent plusieurs fois, parce que Yam, ça veut dire, c'est M, la mer. C'est en français, parce que je raconte un rêve dans le film Poétique des cerveaux. À la fin, je raconte un rêve à moi qui parle de la mer morte, de la mer idéale, de la mer dans un lieu géographique. Hein. C'est-à-dire, je passe de mots M à Yam, mais c'est via les français, via les mots mer, c'est le même mot. Donc, il y a tout ça, mais je prends, par exemple, de nouveau Yam, mon film Misafa les Safa commence donc au bord de la mer. J'ai un texte, quand j'ai réécouté ce texte, il dit tout ce qui va suivre et tout ce qui est le sionisme et tout ce qui sont, tout. Il dit pour moi, mais via mon nom, via ce qui se passe, via la mer, via les langues. Et après, il y a encore la mer à Tel Aviv qui ouvre le mot, le film yiddish, mais pour une autre raison, parce qu'il y a un poème plus tard dans les films de Halperin qui va parler de comment il voit parmi les gens qui se baignent, que c'est 10h du matin et c'est coloré et tout va bien, il y a la mort qui le fait coucou, coucou, comme ça, et il le voit. Et alors moi, je suis allée filmer à 10h du matin, la mer, n'importe où, mais il se trouve que c'est à Tel Aviv, mais c'était parce que c'est n'importe où, comme dit Glissant, qu'il ne s'agit pas forcément d'un lieu, il parle de mon film d'une langue à l'autre, s'il ne s'agit pas d'un lieu précis, mais c'est tous les lieux, ce qu'il appelle le tout-monde, et qu'il retrouve ça.
Alors on peut lire ce texte de Halperin, Memento Mori, je le lis en français, pas en yiddish. Et lorsque Moshe Leib, le poète, dira qu'il a sur les vagues entreaperçu la mort, aussi simplement qu'on se voit dans un miroir, et le matin en plus, comme ça, vers 10h, est-ce qu'on ira le croire, Moshe Leib ? Et lorsque Moshe Leib a salué la mort, de loin avec la main, et demandé « ça va ?», justement au moment où des milliers de gens, dans l'eau, jouissaient follement de la vie, est-ce qu'on ira le croire, Moshe Leib ? Et lorsque Moshe Leib, en larmes, qu'il s'est alors senti attiré par la mort, comme l'amant languissant attiré au soir par la fenêtre d'une femme qu'il vénère, est-ce qu'on ira le croire, Moshe Leib ? Et lorsque Moshe Leib leur dépeindra la mort, non pas sombre et grise, mais belle et colorée, comme elle s'est présentée au loin vers 10 heures, d'elle-même, là-bas, entre vagues et ciel, est-ce qu'on ira le croire, Moshe Leib ?
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig.
Ako, Use, Ota, Osho, Oku, Omene, Bramba, Miambe, Gumbaya, Balako, Balakon Ako, Balakon Use, Balakon Ota, Balakon Osho, Balakon Oku, Balakon Omene, Balakon Amamra, Balakon Miambe, Balakon Gumbaya, Baluse.
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
30, 31, 32, 33, 34, 35. 46, 47, 48,
49, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46.
Nous sommes en train d'entendre un extrait de votre film, un petit film de 2005, intitulé Contine, qui sera projeté en apéritif, si on peut dire, de deux autres de vos films, Traduire et signer en langue. C'est un petit film produit dans le cadre de l'émission d'Inart, La Nuit de Paul Voisan, diffusée sur Arte de 2002 à 2011, avec un montage, et on le voit et on l'entend, extrêmement sophistiqué, de Bertrand Sarre et Paul Voisan. Nous sommes là au cœur de votre laboratoire d'alchimiste des langues, avec ce souci de comprendre et de faire comprendre comment on passe d'une langue à l'autre. Et j'allais dire d'un film à l'autre, maintenant on le sait. Et dans ce film, on compte, les personnages comptent de 1 à 50. Compter de 1 à 50 dans toutes les langues peut paraître banal, mais sous l'œil de votre caméra, cela devient intrigant et passionnant. C'est toute une poétique et une musique rythmée qui apparaît en un voyage autour du monde, autour des mots, autour des langues, où on découvre que compter se fait avec tout le corps, avec les mains et les doigts, avec sérieux et avec le sourire. Le compte, les nombres, ont une grande importance dans votre cinéma, Nourrit à Vivre. Il ne s'agit pas de gématria, de valeur numérique au sens classique, mais plutôt de la manière dont les nombres fonctionnent dans les rêves, tel que Freud l'explique dans sa Traumdeutung, dans sa science des rêves, Nourrit à Vivre.
Oui, c'est un peu comme le mot. Et on joue avec. Donc quand on m'a proposé de faire Vaterland et on m'a dit 30 minutes, je ne sais pas comment, j'ai regardé la carte de Berlin, parce que c'est un film qui passe dans la S-Bahn, les métros, mais les RER, je ne sais pas. Et en fait, je regardais par le nom, je regardais deux stations. Je regardais Ostkreuz, Westkreuz. Bon. Alors, après, j'ai pris par leur nom, j'ai pris ce métro. Ça a pris exactement 30 minutes. Bon. Et après, je me dis, c'est les 30 jours de deuil. C'est un film sur le deuil. Dans la tradition juive, il y a les 30 jours de deuil. Je voulais les filmer le 12 novembre, l'anniversaire de mon père, Vaterland, qui est le 12 novembre. On a eu la réponse des Arte le 9 novembre, bon, qui est déjà pas n'importe quelle date. C'est la nuit des cristals et c'est la tombée du mur, le 9. On a eu la réponse ce jour-là. C'était trop court pour tourner les 12 parce que c'était les week-ends. Donc, je fais, ok, 12 ne marche pas, on va tourner les 21. Si on n'avait pas tourné les 21, il n'y aurait pas eu ces plans que je trouve le hasard à jouer là-dedans beaucoup. Ok, et c'est là, j'attends par un cadre très, parce que j'ai passé des heures et des heures de chercher l'endroit précis où je vais mettre ma caméra. Après, je laisse au hasard de faire le reste. Et c'est un peu toute ma méthode de travail, d'être très précis, avoir un cadre dans lequel j'espère qu'il va se révéler quelque chose qu'on ne sait pas à l'avance. Je prends un autre exemple qui est traduit. Bon, on sait la 70, 70 vieux qui ont traduit ces 70. Hein.
70 et, sages.
Il y a 70 sages ou 72, mais ça s'appelle 70. Le film dure 70 minutes, évidemment. Comment faire autrement? Donc, il y a tout ça qui joue comme les mots qui vont, avec lesquels que je ne sais pas, justement, ce qu'ils vont me révéler à l'intérieur de ça. Je laisse faire.
Il y a une poétique du nombre. On a l'impression d'être chez Mallarmé, qui rencontre à la fois le nombre et les mots. Et ces mots et ces nombres révèlent à chaque fois des associations que vous n'avez pas prévues. Un petit peu comme la peinture, comme chez Francis Bacon, qui dit « Je pensais faire un oiseau, j'ai fait une voiture, mais c'est ça qu'il fallait faire. » Parce qu'on est surpris par ce qu'il appelle la biffure. Donc les nombres sont très importants. Vous venez de parler du cadre et de la manière dont vous posez la caméra. Le cadre est très important. Il y a chez vous beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes, beaucoup de couloirs. On parle d'un style Nourrit à vivre, qui est très reconnaissable. On dit souvent, tiens, c'est du Nourrit à vivre. Comment comprenez-vous cette formule? J'ai l'impression que cela se joue sur deux plans, sur celui du contenu. Peut-être quand on parle d'une langue à l'autre, alors les gens disent comme chez Nourrit à vivre, ou celui du dispositif. Et même le dispositif, il y a deux niveaux, celui du cadre dont je viens de parler, mais peut-être aussi le fait que après vos films, il y a des invités qui viennent parler et qui font partie du film comme si nous, les spectateurs, participions tous à cette fabrication des images avec vous, avec les acteurs et les commentateurs Nourrit à vivre.
Exactement. Et là, vous faites partie de mon film, d'une certaine manière. Et en effet, il y a un sujet qui me vient et qui tourne toujours autour de la langue, on est d'accord, et que je n'ai pas envie de quitter d'une manière ou d'une autre. Et il y aura des gens dans le film qui vont réagir par rapport à leur... Je cherche toujours pas les chercheurs, c'est pas le savoir, c'est l'expérience, avoir avec savoir, expérience, passion. Et ils vont parler, c'est... De plus en plus les amis, parce que du coup, ça suffit de chercher parmi les amis ou ceux qui vont devenir amis. Et après, il y en a d'autres amis dans le cinéma qui vont réagir, qui vont commenter, comme dans le Talmud. Donc on voit la page du Talmud, et là, à la rétrospective, c'est pareil. Et dans les livres, c'est du même ordre.
Expliquez d'une page du Talmud, il y a un bloc central de mots, qui est la page, et tout autour, il y a des commentaires. Il y a le commentaire de Rashi sur la droite, il y a le commentaire des Tosafis sur la gauche. Ça, c'est une génération. Mais après, sur la droite du premier commentaire, il y a une nouvelle colonne, sur la gauche de même. Puis après, il y a une autre colonne. Et en fin de compte, il y a quelque chose de très, très circulaire qui fait qu'on a une géographie de la page qui est le commentaire du commentaire du commentaire du commentaire du commentaire.
C'est ça. Et au milieu.
Et voilà. Et on est.
Une fenêtre.
Et au milieu, une fenêtre. Exactement. Mmh. Ce style que l'on peut nommer et que vous nommez midrashique ou talmudique, c'est-à-dire fondé sur l'interprétation et l'interprétation de l'interprétation, se retrouve dans le livre qui vient de sortir aux éditions Exil, au pluriel, une très belle maison d'édition qui est dirigée par Philippe Thureau d'Angin, où l'on trouve des textes, les interventions dont je viens de parler, et d'autres textes. C'est une édition établie par Claire Bourbinder avec le concours de Marianne Dautré et Nathalie Georges Lambrix. Pourquoi ce livre est si important pour vous, Nourrit à vivre, avec les films? On le comprend, puisque je l'ai expliqué, mais quel est le sens et l'importance de ce livre qui sort en avant-première à l'occasion de cet hommage et qui sortira officiellement le 11 mars prochain?
Je ne sais pas encore le livre, je le vois là depuis hier. Et je ne sais pas encore, il est encore, pourquoi il est important, je ne sais pas s'il est important.
Alors il sent bon, je peux vous dire, il sent le papier neuf.
Il sent
le livre. Les textes sont très beaux, j'ai eu la chance de le lire. Il y a des très très belles images en couleur de vos films. Mais pourquoi c'était important qu'il y ait un livre en même temps que l'ensemble de ces films qui auraient pu se suffire à eux-mêmes ?
Il y a pour chaque film, c'est un peu la même chose. Il y a pour chaque film plusieurs personnes qui ont écrit. Souvent, ils ont réécrit ce qu'ils ont dit au cinéma ou écrit de nouveaux textes et que ça retrouve, c'est talmudique. Les films, et il y a les images, autour des images, il y a tous ces gens qui disent des choses fantastiques sur les films que moi, parfois, je me demande, ils parlent de mes films et je suis tellement reconnaissante de tous ces gens, je sais pas, je crois qu'il y a 40 articles. C'est vraiment chercher et chercher encore autour de la langue et chercher cette chose que je reviens sur glissant, le tout monde. C'est quelque chose que Benjamin a appelé la reine, je parle, que bon, la langue pure, que j'aime pas beaucoup là. J'aime pas beaucoup cette expression. Je préfère le tout monde de glissant avec ce qu'il dit, l'idée de la relation au centre de sa pensée. Et ça met en relation vraiment les gens, les films, les choses dans le film, les choses qui sont dites dans l'un, on retrouve dans l'autre, mais sous une autre forme. Raviva Pedaya, dans D'une langue à l'autre, parle de cette langue qu'on attend, mais qu'on parle pas. Et il y aura après, 20 ans plus tard, un autre film entier qui va parler de ces mots qui restent, des mots qui restent. Mais je me rappelais pas que Raviva, je découvre ça il y a 2 jours, je dis, ah, c'était déjà là. Et tout d'un coup, c'était un film entier. Et il n'est pas sorti de la logique. De là, il est sorti après Yiddish. Yiddish, c'était vraiment après Signé. Signé, c'est un film sur les langues des signes, les langues des signes, qui évidemment sont de vraies langues avec une grammaire, et qu'on dit toujours, il n'y a pas de grammaire. Et j'ai dit, ah, ça, j'ai déjà entendu. On a toujours dit ça sur l'yiddish, qu'il n'y a pas de grammaire. J'ai dit, bon, je vais faire un film yiddish, pas sur la shtetl, pas ce que vous attendez, sur la poésie d'avant-garde, écrite entre les deux guerres, que personne connaît, qui est une poésie extraordinaire. Et s'il y a cette poésie extraordinaire, on n'a pas à discuter s'il y a une grammaire ou pas, c'est évident. Et puisque je fais un film entier sur l'yiddish, écrit en lettres hébraïques, carrées, comme des fenêtres, alors il y a tout d'un coup qui arrive les autres langues, les judéo-persans, les judéo-espagnols, les judéo-arabes, judéo-libyens, judéo-marocains, et tout ça, et des langues qui disparaissent, mais il y a encore des gens qui ont des mots dans leur mémoire, et même s'il n'y a pas les mots, il y a la musique.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous dites que dans vos films, les films dialoguent les uns avec les autres, les mots renvoient à d'autres mots, à d'autres films. C'est-à-dire que, au-delà de la question de la langue et la question du langage, vous insistez sur la question du dialogue. Un petit peu, c'est très boubérien, on est chez Boubert. Dans la relation, et chez Glissant, l'identité relation chez Glissant. Et il était naturel, dès lors, que ce n'est pas simplement les langues qui dialoguent, mais aussi les personnes qui dialoguent entre elles autour de vos films, et le livre est le témoignage de ce dialogue entre les personnes, et c'est pour cela qu'il a une importance fondamentale, si on peut dire. Alors, dans cette semaine d'hommage, il y aura une masterclass sur votre œuvre, donnée par Catherine Cocchio, en votre présence. Cela témoigne de votre part d'un souci de formation et d'enseignement pour les générations futures de cinéastes. L'enseignement et la transmission a toujours été l'un de vos engagements, Nourita Vive, à travers vos pratiques et à travers ce que vous transmettez dans vos films. Parlez-nous de cette passion de la transmission.
Oui, c'est quelque chose qui a à voir avec la filiation. Ça me fait penser, filiation, fils, et film, bon, ça s'écrit pareil. Il y a un M en plus. On enlève le M, la mère. M en hébreu, c'est la mère. Et bon, c'est encore le jeu de mots. Mais moi, j'adorais, j'ai enseigné dans plusieurs écoles, en France, en Allemagne, en Israël, dans les trois, chaque fois, dans la langue du pays. Il y avait quelque chose de formidable de voir. C'était toujours aussi des masterclass qui duraient une semaine. Et quand j'ai vu les gens rentrer à la première jour et les dernières, ils n'étaient pas les mêmes. Ce qui a changé chez eux, c'est les regards. Et c'est tout ce que je voulais transmettre. C'est regarder de là, avec cette lumière, avec une autre lumière, par telle fenêtre, par telle réflexion, de la lumière dans le miroir, etc. C'est-à-dire, pour moi, justement, l'image et les mots, ça rentre l'un dans l'autre. Et les mots, surtout pour moi en hébreu, c'est des images, c'est des carrés, c'est des fenêtres. Et tout ça, je tourne autour, comme vous voyez. Je construis, je déconstruis, j'essaye de... En fait, je cherche tout le temps. Je ne sais pas exactement ce que je cherche. Je suis toujours à la recherche de ce que je cherche.
Merci Nourit Aviv pour cette très belle conversation, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le lieu et les dates de cette semaine d'hommage, c'est au Forum des Images, du samedi 25 au jeudi 30 janvier, dans le cadre du festival Un État du Monde. Je signale donc aussi la sortie du livre qui vous est consacré, intitulé Nourit Aviv, filmez la parole, c'est aux éditions Exil, un très bel ouvrage absolument passionnant et riche de très belles analyses sur votre travail. Le programme et encore d'autres projections à venir et d'autres manifestations sont présentées sur le site de l'émission et j'encourage tous les auditeurs à les découvrir. Merci encore Nourit Aviv.
Merci à vous Marc Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Valérie Lavalard, à la réalisation Alexandra Malka. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.